des formes utiles. L'art et ses récits, une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.fm. Vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Alexei Bajanov, et plus particulièrement heureuse car mon invité est russe, comédien, et il est le premier de mes invités qui vient du monde du théâtre. Alexei Bajanov a quitté son pays quelques mois à peine après le début de la guerre en Ukraine et il s'est exilé avec sa famille depuis un an à Paris. L'exil est une épreuve extrême, surtout lorsqu'il n'est pas choisi. Alexei le vit avec une grande retenue et dignité dans cette ville qu'il connaît depuis sa jeunesse, une ville qu'il aime où il a des amis. Nous allons tout au long de ces deux entretiens parler de Moscou et de théâtre, du théâtre d'art de Moscou où il a été comédien et metteur en scène, pendant qu'Oleg Efremov était son directeur, parler de sa vision de l'art théâtral, de Tchekhov sans faute, parler de la vie et de l'exil, parler de son travail pendant 20 ans à la télévision, de la réalisation de son film, jusqu'à nouvel an il reste, parler du passé et du présent pour éclairer ce qu'il est devenu, ce qu'il est. Bonjour Alexei.
Bonjour Fabiola. Merci pour me présenter de cette façon, bien que quand tu entends, quand on parle de toi, que voilà, cette personne est en exil, ça devient triste. Alors, quand même, j'espère que cette fois-là, on va parler plutôt des choses plus gaies, plus, rassurantes, parce que aujourd'hui, le monde entier, il est dans une telle situation que on a vraiment trop des choses tristes. Alors, on va parler du théâtre, de la vie. J'espère que ça va être comme ça.
Mais l'exil, ça peut être une libération aussi. C'est pas toujours si triste. Pour moi, ça a été... j'étais heureuse quand j'ai quitté mon pays, même si...
Oui, mais d'après ce que je sais, c'était quand tu étais très, très jeune. Et donc, la jeunesse, c'est toujours, bien sûr... On doit bouger et tout ça. Et quand cet exil, quand tu as déjà un certain âge et tout ce que la guerre et tout ça, donc quand même, c'est. T'es pris chaque jour, chaque moment par les pensées que. C'est pas vrai, ça peut pas être comme ça au XXIe siècle. La guerre, grande guerre, et quand tu as que c'est vraiment en ce moment, ça touche millions de personnes autour du monde, et ça n'aurait pas dû
avoir lieu.
Se passer. Aujourd'hui, bon, jamais, mais on ne pouvait pas s'imaginer que ça va se reproduire de nouveau. C'est pourquoi je dis que c'est quand même exil, là, je ne vais pas dire que beaucoup de gens vont être d'accord avec nous, que exil, c'est une sorte de libération. En ce moment... les Ukrainiens, les Russes, on peut nommer plusieurs pays et des millions de personnes qui ont quitté ces pays, pas du tout en 60 ans,
libérés.
Ils sont devenus libres.
Tu es né à Astrakhan ?
Oui.
Une ville sur laquelle un voyageur d'il y a quelques siècles a écrit. Nous jetons un dernier regard sur la ville, si commerçante et si prospère, avant la découverte de la route de mer par le cap de Bonne-Espérance. Nous admirons encore une fois sa belle cathédrale, ses coupoles, ses tours crénelées, le grand canal qui la traverse, ses nombreux vaisseaux. C'est vraiment un beau panorama. Astrakhan est situé dans un grand îlot qu'entoure le Volga, en partie sur une colline que l'on appelle le Monticule du Lièvre, en russe Zayechi Bongor.
Oui.
Son port est large, bien abrité, mais trop pensable pour donner l'hospitalité aux navires d'un fort tonnage. Ah, nous dit un passager qui voit sur notre figure quelques émotions. C'est au printemps qu'il faudrait voir Astrakhan, lorsque viennent toutes les caravanes de l'Inde ou de la Chine et que les cargaisons de thé destinées à la consommation de la Russie couvrent le rivage. Quelle a été ton enfance et ton adolescence à Astrakhan, où tu es resté jusqu'à tes 18 ans, je crois?
Plutôt jusqu'à 16 ans, 17 ans, c'est ça. Ah, bah, j'étais heureux. Vraiment heureux, puisque c'est une ville qui se trouve sur la Volga, une des plus grandes rives du monde. Et tu sais, c'est que c'est presque le dernier endroit où on trouverait à l'époque les esturgeons sauvages. Et donc, dans mon enfance, je mangeais le caviar à la louche. Et ça, c'est vrai. C'est pas un jeu de mots. Dans chaque famille, on avait une casserole
pour le caviar.
De la caviar. Ou la caviar qui s'appelle Payusnaya. C'est donc c'est comme un saucisson comme ça. Donc, et mes parents, ils m'ont fait bah, « Pourquoi tu manges pas le caviar ?» Et les sécher déjà dans le frigo, il faut là. Bien sûr, je plaisante, c'est pas une seule chose qui... Au contraire, à mon enfance, plutôt, je ne comprenais pas que c'est quelque chose d'exceptionnel et tout ça. Et je peux dire qu'après, quand je suis venu avec mes amis français, c'était déjà au 89, et nous sommes allés à la Delta, presque à la mer Caspienne, pour un jour. Et donc, il y avait des pêcheurs qui sont venus vers notre bateau, et ils ont ramené 3 casseroles de la caviar, et on a filmé, même ça, mes amis français, ils ont cette vidéo où ils coupent un grand pain en deux. C'était même pas le baguette, vous savez, c'est comme des briquets, le pain comme des briquets, donc ils le coupent en deux. Et il met
du caviar,
oui, et ça donne un sandwich au caviar qui mesure 1 demi-mètre de longueur. Mais ça, c'est plutôt comme des choses étranges. Ça n'existe plus depuis que ça n'existe plus. Là, tout est pris par les gens qui ont du pouvoir. Donc,
on ne mange plus le caviar.
Non, à Astrakhan, on a oublié déjà qu'est-ce que c'est depuis 30 ans que, on peut dire, le système économique est changé. Là, il n'y en a plus.
Une ville riche.
Oui, il est très, très riche. Bon, je finis ma phrase. Les enfants d'Astrakhan, les derniers 30 ans, ils ne mangent plus de caviar. Donc, par rapport à eux, j'étais déjà... Mon enfance, on peut dire, était plus heureux que d'aujourd'hui. Mais, pas que ça. Par exemple, les tomates d'Astrakhan, ce n'est pas une légume comme des tomates ailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand, par exemple, à Moscou, on vend des tomates et on met une... Comment on dit ?
Une étiquette
Oui. Les tomates d'Astrakhan, ah, ça, les gens, ils l'achètent parce que c'est vraiment... Ils ont le goût particulier, très, très...
Parfumé.
Même pas parfumé. Si tu fais... de la salade, on peut dire comme ça, avec de l'huile de tournesol. Et... Ah, c'est... Là, quand... C'est depuis longtemps que je ne suis pas allé à Sakai, mais quand je viens à Sakai, je vais manger cette salade parce qu'il est vraiment extrêmement délicieux et, ou délicieuse. Je m'excuse, je vais toujours hésiter féminin, masculin. Bon, c'est comme ça. Et par exemple, donc c'est un pays très très riche. Et il y a beaucoup de poissons, différents genres, qu'on était les petits, et même pas nous. Chaque année, on met, par exemple, on a dit « Vobla, viens ». Vobla, c'est une sorte de poisson qu'on sèche après. Il est très bien avec la bière, mais même sans la bière, il est très très bien. Et donc là... Tous les garçons, ils séchaient ces études. Et même les grandes personnes, ils étaient tous à la bord de la Volga avec 3 à 5...
Cannes à pêche.
C'est même pas canne, c'est que de filet. Mmh,
le fil.
Le fil avec 3, 4...
Hameçons.
Oui. Et donc pendant 2 heures, tu ne fais que lancer, tirer. Pourquoi c'est 4? Parce que tu tires une, tu le lances et c'est comme ça. Et tu rentres à la maison vraiment avec un sac énorme, les gamins, tout. Et après, tous les balcons à Sakai étaient comme avec des guirlandes. Des volbas, des voblas et tout ça. Donc c'est aussi, c'est une histoire très, très chaleureuse, très touchante. Et il y avait des moutons, donc il y avait des légumes différentes sortes. Donc c'est ça, c'est mon enfance. Bien que j'ai vécu dans une ville, grande ville, à Sakai, c'est assez grand. Mais quand même...
Tu étais dans la nature.
Oui, tu vois, on a passé toutes nos journées sur la Volga, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. On s'est baigné, donc... Et c'était une vie comme elle doit être pour un enfant.
Et c'était aussi une ville culturelle. Tu as un premier souvenir de spectateur de théâtre?
Oui, bien sûr. Vous savez, à l'Union soviétique, il n'y avait que du théâtre répertoire d'État. Et à part de ceux qu'on a appelés les théâtres peuple. Donc ça, on a eu dans chaque quartier ce qui s'appelait les palais de la culture. Où tous les gens auraient pu venir faire du théâtre.
En amateur.
En amateur, oui. Mais à Astrakhan, il y avait 2 théâtres d'État professionnels. Un qui s'appelle TUS, théâtre pour les jeunes spectateurs, qui s'occupait des... Ils ont monté en scène les spectacles pour les enfants. Mm-hmm. Il était spécialisé pour ça. Et l'autre, le théâtre... dramatique qui existait dans une belle maison ancienne. Et par contre, encore, par exemple, en Europe, il y a beaucoup de petits villages, des villes qui sont anciens. Et à l'Union soviétique, c'était un peu particulier parce que presque on a tout reconstruit pendant le XXe siècle. À cause de la guerre, à cause des bêtises...
Ils ont démoli aussi beaucoup.
Démoli. Et Astrakhan, c'était presque la seule ville en Europe, je veux dire en Russie européenne, qui est restée comme elle était avant la Révolution. Et donc, il y avait plusieurs équipes cinématographiques qui sont venues Il y avait plusieurs films qui sont très très connus.
Qui ont été tournés là-bas.
Qui étaient tournés à Astrakhan. Et en plus, comme le bonus, toutes les équipes cinématographiques, ils savaient que quand il vient, ils vont manger la caviar à la louche. Donc, ils ont eu à la fois deux avantages. Une décoration naturelle d'une ville ancienne et les délicieux repas.
Le théâtre est venu un peu par un enchaînement de hasard, je dirais. Tu as le bac en poche, tu viens passer des examens pour étudier à Moscou en 83, je crois.
En 82 plutôt.
En 82.
Oui.
Après quelques péripéties, tu entres dans une école qui prépare des metteurs en scène pour des théâtres d'amateurs.
Oui.
Puis tu es appelé à l'armée pour 2 ans à Vladivostok.
Non, c'est pas à Vladivostok, c'était en Sibérie.
Ah, en Sibérie, mais pas à Vladivostok.
Non, c'était à Barnaoul, c'est à Altaï, c'est, on l'appelle cette région la Suisse russe. Et en ce moment, on investit beaucoup de l'argent pour créer là-bas un endroit touristique pour les riches. C'est là-bas que j'ai passé 2 ans.
C'est là-bas que tu as passé 2 ans.
Et comme je t'avais dit, c'était une histoire drôle parce que normalement, on ne prend pas pour service militaire les gens en Union soviétique de l'université. Mais comme c'était la guerre en Afghanistan, et juste pour 2 ans, on a commencé à prendre les jeunes gens pour les services militaires dès l'université. Et c'est bien ça sur ma génération qui s'est tombée. Tous mes copains nous sont allés, on nous a pris de l'université pour faire le service militaire. Et c'est pour ça que tu as posé la question comment je suis arrivé au théâtre. C'était...
Excuse-moi, ouais. Mais je n'ai pas fini. Tu étais en armée, donc tu reviens. Mais à ton retour, tu passes un nouvel examen pour entrer à l'école supérieure de théâtre.
Oui, c'est ça.
Il y avait 400 candidats pour une place.
Ah oui, à l'époque, c'était comme ça parce que bien qu'à Moscou, il y avait 4 écoles supérieures de théâtre, celle du MKAT, Théâtre d'art de Moscou, celle de Normal Théâtre, Chupkin, Chukin, celle de Vartangov, de Théâtre Vartangov, et Gitis, qui c'est l'université d'État théâtral, et il y avait 2 à Saint-Pétersbourg. Et donc, tous les jeunes gens, ils font voyage Moscou-Leningrad à l'époque.
À l'époque, Leningrad.
Moscou, oui, Moscou-Leningrad, pour essayer d'entrer dans une de ces écoles théâtrales. Et comme l'Union soviétique, elle était énorme, plus que de 300 millions d'habitants, ces 6 écoles théâtrales, bien sûr, elles n'étaient pas suffisantes pour... Et le concours était énorme. Il y avait 4 étapes où on doit arriver par 10 personnes. Il reste une personne. Ensuite, on fait les suivants 10e. Et donc, comme ça, tu arrives, quand tu arrives au concours, tu laisses derrière toi, sur ta place, 400, 500 personnes pour y arriver.
Et tu l'as obtenu?
Oui, après l'armée, je suis obtenu à l'école théâtrale, Chepkin, d'après Mali Théâtre.
Tu n'as pas suivi de préparation particulière avant cet examen. Qu'est-ce qui, penses-tu, t'a permis quand même de l'obtenir? J'ai trouvé chez Gorky une phrase qui dit, Maxime Gorky, l'écrivain russe, « J'ai l'impression d'avoir été dans mon enfance comme une ruche où des gens divers, simples et obscurs apportaient, tels des abeilles, le miel de leur expérience et de leurs idées sur la vie. Chacun d'eux, à sa manière, enrichissait généreusement mon âme. Souvent, ce miel était impur et amer, mais qu'importe, toute connaissance est un précieux butin. » Et je me suis dit, est-ce que c'est un peu ça? Ton enfance, ton adolescence à Astrakhan, les gens autour de toi?
C'est très beau ce que a dit Gorky. On ne sait pas toujours, ça peut être de la chance, ça peut être... tu vois, même quand... j'ai eu la même chance après quand on a terminé l'école, parce que la formation théâtrale en Russie, c'est 4 ans. Et au bout de 4 ans, l'année diplômant, on commence en hiver chercher le théâtre. On va dans les différents théâtres pour présenter les fragments, on joue. Et donc, dans le théâtre, parce que c'est pas comme en Europe, il reste beaucoup de théâtres d'État. Le théâtre répertoire on dit comme ça, de répertoire. Donc, si en France, c'est plutôt le théâtre, quand on se réunit pour jouer une pièce, on la joue pendant un certain temps, un mois. Si ça marche bien, ça peut être 6 mois. Non, en Russie, c'est chaque soir, on joue différents spectacles et la troupe, elle est stable. Donc, si on t'engage dans un théâtre, ça peut être pour toute ta vie. Et donc, après l'école théâtrale, l'année diplômante, tous les élèves, ils courent par tous les théâtres du pays pour se montrer et pour avoir...
Essayer d'avoir une place... Oui.
Et donc, quand tu peux me poser des questions pourquoi j'étais admis à l'école théâtrale, là, je peux te raconter que moi, je ne courais pas par tous les théâtres parce qu'à un autre spectacle diplômant, Oleg Yefremov, à cette époque, dirigeant le fameux théâtre d'art de Moscou.
Grand acteur, grand...
Grand acteur, grand metteur en scène, une grande personne vraiment incroyable.
Il y a la salle du MC93 ici à Bobigny, il y a une salle qui porte son nom.
Je ne t'ai pas raconté cette histoire, parce que là, l'année dernière, mes amis m'ont invité à voir un spectacle à Bobigny, et j'arrive, et au-dessus de la porte, Oleg Yefremov. Moi, j'étais vraiment... Je n'étais pas entendu. Et pour moi, c'était comme... si j'ai rencontré quelqu'un de proche, inattendu comme ça, et lui, il mérite vraiment parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour le théâtre russe en tant qu'en. Déjà, le théâtre d'art de Moscou, il était en crise, et c'est, on dit, les vieux Dumkat, on les appelait les acteurs qui ont travaillé avec Stanislavski. À l'époque, il était jeune, bien sûr. Là, aux années 70, au début des années 70, ils ont appelé Oleg Yefremov pour qu'il sauve le théâtre d'art de Moscou. Il a réussi de le faire. Il a réussi. Il a monté plusieurs spectacles avec ses vieux acteurs. Il a engagé des nouveaux acteurs. Il a mis beaucoup de spectacles qui ont eu... le succès, et en plus, il était quand même très très proche par sa système au l'esprit du théâtre de Stanislavski Yefremov. Même autant, vous voyez, les choses les plus fortes dans l'art et dans la vie, ils sont quand même les plus simples à la fin. Parce que quand je suis arrivé... Bon, j'ai fini cette histoire. Donc, il était venu voir notre spectacle et cet grand homme a engagé 7 élèves de notre cours, et, y compris moi. Et donc...
Tu n'as pas dû courir...
Oui, et j'étais engagé au premier théâtre de la Russie, en Khat, comme ça.
Et c'est ça ta réponse pour dire comment tu as fait
oui,
pour...
donc c'est ça, j'ai eu de la chance et
deux fois,
la première fois pour y entrer, la deuxième fois
pour sortir
tout de suite chez Yefremov. Et qu'est-ce que je voulais, on a parlé que Yefremov il est...
Ma question suivante aurait été quels ont été tes professeurs déjà, parce qu'avant d'arriver à travailler chez Yefremov, tu as fait cette école.
Oui.
J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils t'ont appris, qu'est-ce qui est resté de leur enseignement.
Ça aussi, je peux te dire que j'ai eu de la chance parce que mes professeurs, ils étaient exceptionnels. Et c'était Sontseva, Petrova et Dolgachev. Ils étaient complètement différents, tous les trois. Et souvent, ils n'ont pas la même impression de ce qu'on a fait. Comme des élèves, ils n'étaient pas contre. Ils nous ont dit tout le temps, voyez, on s'engueule de ce que vous faites. C'est normal, parce que nous sommes acteurs, nous sommes tous. Nous avons nous pouvons avoir des opinions différentes. Mais quand nous sommes tous les trois d'accord, c'est-à-dire que vous avez vraiment quelque chose de très, très bien. Et comme ils avaient tous les trois sa propre particularité. On a eu de la chance de travailler ces 4 ans dans les différentes manières, parce que chaque d'entre eux, ils ont créé le spectacle avec nous, ils ont travaillé sur les différents fragments des différents auteurs. Et là, on a eu de la chance de travailler en même temps avec 3 personnes.
Avec des personnalités différentes.
Oui, qui avaient son théâtre, son propre théâtre dans chaque d'entre eux. Et c'est ça ce qui était très, très intéressant. Ce que je voulais dire pour Ephraim Afoussi, parce que quand je suis venu les premiers jours en Mkhat, et donc l'ouverture, la rentrée, parce que les théâtres d'État, ils se ferment en été pour 2 mois. Et là, on avait aussi les avantages parce que...
Vous partez à Astrakhan manger du caviar.
Oui, parce que tous les acteurs, ils avaient 2 mois de congé. Et c'était toujours en été. Mais après, c'est la rentrée à la fin du mois d'août.
Mais il n'y a pas de... Moi, je pensais que pendant l'été, on part aussi faire des tournées dans d'autres villes.
Parfois, oui. Parfois, oui. Mais c'était, par exemple, en 95, on a fait un tournée sous la Volga, depuis Moscou jusqu'au Rostov-sur-Don.
Sur la Volga.
Oui, et on a joué dans chaque... On a resté sur un grand bateau. Et avec la troupe de Mkhat, sur ce bateau-là, avec tous les grands acteurs. Et donc, on a, pour un mois, on s'est arrêté dans chaque ville grande, Saratov, Samara, Gorki, à l'époque Nizhny Novgorod, aujourd'hui. Et on a joué le spectacle de Mkhat, et c'était merveilleux, c'était chouette vraiment. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Parfois, certains spectacles, ils étaient partis pour tourner en été. Mais par exemple, si tu n'es pas pris de ce spectacle, tu as le droit de congé qui est payant pour 2 mois. Voilà. Et donc là, on arrive pour la première fois à la rentrée de Mkhat. Et Oleg Efremov commence son discours. Je le dis toujours, ce qui est le plus important dans notre métier, des acteurs, bien sûr, c'est l'image. C'est l'image qui est devant nous. Moi, je suis arrivé, je viens de terminer le cours. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle image? Ben oui, c'est si évident, l'image. Pourquoi on doit parler de ça? Quand même, il doit proposer quelque chose fort, quelque chose incroyable, mais c'est... Et assez vite, au bout de 3-4 ans que je travaillais en Mkhat, j'ai compris jusqu'à quel niveau il avait raison. Puisqu'il a parlé toujours en travaillant sur un spectacle avec les acteurs. Il parlait toujours des choses, à premier regard, très simples, qu'on connaît tous. Mais comme ça, il a réussi à arriver de créer le spectacle ou d'aider à créer le personnage pour les acteurs avec une telle vérité et finesse, ce qui est la plus forte du théâtre d'art de Moscou de l'assistant Stanislavski. Parce que, comme je dis, pour moi, tous les arts scéniques, la musique, le théâtre, l'opéra, mais ce qui se passe devant nous en ce moment, ça, ce sont les plus forts. Par exemple, le cinéma. Un blockbuster où on voit un incroyable accident, où les voitures se tournent, se crashent, tout ça, on est très impressionné et incroyable comment ça se passe devant nous. Mais ça n'a rien à voir si on traverse la rue et devant nous, on voit accident. Là, en ce moment, quand la voiture a failli écraser quelqu'un. Et c'est ça, les arts scéniques. C'est ça, ce qui est en théâtre. Sauf que même dans ma vie théâtrale, j'ai vu, bien sûr, plein de spectacles. Et seulement 3 fois, j'ai vécu cette impression incroyable. Bon, j'ai vu plusieurs très, très bons spectacles. Et j'étais très impressionné comme un spectateur. Mais 3 fois, c'était des moments...
De grâce.
Je suis athéiste, mais c'était des moments divins. Parce que tu as vraiment l'impression que tout d'un coup, tu comprends pour cette vie, pour cet univers, les choses essentielles et si fortes qu'en même fois, tu es heureux et tu as envie de pleurer parce que tu vois, tu perçois la vie dans toute sa complexité. Et ça, qu'en théâtre, sur la scène, à l'opéra, on peut vivre, on peut revivre ces moments-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille le plus souvent de théâtre. Parce que si vous n'avez pas encore vécu ces moments, alors il faut y aller. Parce que moi-même, avec mon expérience, j'ai vu des milliers de spectacles. Mais il y a 3 moments quand c'est arrivé. Et je crois que, encore une fois, j'ai eu une grande chance que c'était 3 fois. Et c'était spectacle. J'en ai Les Bonnes, 3 sœurs, Tchekhov et Grand Magie d'Estreller. Donc, vous voyez, c'est...
C'était tout le spectacle ou il y avait des moments dans ce spectacle-là?
Mais bien sûr, ça ne peut pas durer tout le spectacle. Mais le spectacle, dans sa continuité, dans son ensemble,
il a
emmené les spectateurs vers cette... compréhension vers cette émotion qui t'emporte pour qui t'ouvre le savoir, la conscience de cette vie émotionnelle et raisonnable à la fois, qui te permet de comprendre vraiment des choses très graves d'après notre vie. Non, pas très grave, important. Parce que les plus graves, ça a une
dimension
un peu lourde. Les plus importants, bien sûr.
Thank you.
Jouvet disait « Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre. » Qu'est-ce que doit faire une pièce de théâtre ? T'amener à ces moments de,
oui,
de compression.
Oui, parce que c'est particulier. C'est, tous les genres scéniques, ils nous permettent de vivre en ce moment, d'être témoin en réalité, en chair, on peut dire, de ce qui se passe. Et bien sûr, ça a ses défauts. Si le spectacle n'est pas très bon, alors on est déçu plus fort que d'un film pas très bon. Mmh. Parce que ça, nous sommes témoins, ça se passe, ça se déroule devant nous. Mmh. Et au contraire, si c'est bon, si c'est génial, on a le plus fort émotion parce que ça se passe en ce moment avec nous. C'est le fait de notre, ça devient l'effet de notre vie personnelle.
Il y a quelque chose que tu dis qui m'amène à Eugenio Barba, le metteur en scène italien,
oui,
anthropologue du théâtre. Il disait, il a un livre qui s'appelle Le canoë de papier. Il dit la matière première du théâtre n'est pas l'acteur, l'espace, le texte, mais l'attention, le regard, l'écoute, la pensée du spectateur.
Oui, c'est tout à fait, c'est ça. Et même quand tu es sur la scène, chaque fois c'est deux différents spectacles. Aujourd'hui, il y a le public qui t'amène...
Parce que le public peut te porter aussi,
quelque chose,
non
oui, oui, bien sûr, qu'il te donne quelque chose que tu réalises ce soir le plus fort. Ça ne peut pas arriver le lendemain parce que le public peut être un peu différent. Il y a... Parce que c'est ça, c'est pour ça. Le cinéma, il est fixé et quoi que se passe aujourd'hui, et quelle bêtise ne fait Trump aujourd'hui, on s'en fout. Et au spectacle, ce soir, on arrive avec nos émotions d'aujourd'hui. Et donc, on emporte dans cette présentation d'aujourd'hui ce qui se passe. C'est pourquoi c'est de la vie. C'est les trucs qui se passent en ce moment. C'est ça, la puissance des arts scéniques.
Il y avait... un acteur, l'acteur de Grotowski, oui, Richard Cieslak, lui, il disait, il parlait de la partition, comme Barba, lui aussi, il parlait de la partition, donc tous ces mouvements scéniques à prendre avant de jouer, tu as appris ton rôle. La partition est comme un vase de verre dans lequel brûle une bougie.
Oui.
Le verre est solide, immuable, on peut compter sur lui. Il enferme et guide la flamme, mais il n'est pas la flamme. La flamme est ce qui se passe en moi, dit lui en tant qu'acteur, et ce qui se passe en moi chaque soir. C'est ce qui éclaire la partition, ce que voit le spectateur à travers la partition. La flamme est vivante. Précisément, comme la flamme enfermée dans le verre tremble, palpite, s'allonge, diminue, est prête à s'éteindre et soudain regagne en vivacité, se pliant au moindre souffle de vent, ma vie intérieure se modifie chaque soir au fil des instants. Chaque soir, je commence sans avoir rien prévu. C'est la chose la plus difficile à apprendre. Je ne me prépare à sentir quoi que ce soit. Je ne me dis pas « L'autre soir, cette scène était extraordinaire, je vais essayer de la répéter. » J'essaie seulement d'être réceptif à ce qui va se produire. Et je suis prête à capter ce qui arrive, si je suis certain de ma partition, sachant que même si je ne ressens rien, le verre ne se brisera pas et que la forme, que j'ai travaillée pendant des mois, me soutiendra jusqu'à la fin. Mais si un soir, il m'est donné de m'enflammer, de faire jaillir la lumière, de vivre, de révéler, j'y suis préparé, n'ayant rien prévu. La partition reste la même, mais tout est différent, parce que moi-même, je suis différent.
C'est très juste. Je peux vous donner un exemple que je raconte souvent. Quand je travaille en Pratt, c'était Inocentis Moktounorski, peut-être vous avez entendu de cet acteur. Il a joué Hamlet dans Femme Film, et c'était, on le considère en Russie comme un génie. En tant qu'acteur, un génie. Et donc, moi, je joue chaque soir, je le vois comme il joue, et à côté. Et bon, c'est très fort, c'est bien. Par exemple, ils ont joué à son tour avec un autre acteur, Merkov, qui est très très grand acteur. Ils ont joué Oncle Vanya. Un soir, c'était Smoktunovsky. Une autre soir, c'était Merkov. Et moi-même, j'aurais préféré l'interprétation de Merkov. Bien que celle de Smoktunovsky, il était très, très intéressant, mais moi, je préférais, pour moi, c'était plus fort. Et il y avait Smoktunovsky, il a joué, il y avait deux scènes, grande scène et la petite scène à côté. Et il y avait, comme c'est un spectacle, c'est un théâtre à répertoire, il y avait un spectacle où Smoktunovsky a participé sur la petite scène, quand moi j'ai participé dans un autre spectacle sur la grande scène, et moi j'avais un pause de 20 minutes dans l'autre spectacle. Et donc, j'étais jeune, et dans ce spectacle où Smoktunovsky a joué, il y avait une scène d'une très très belle fille qui s'est déshabillée. Et il est devenu nu sur la scène. Et donc, moi, j'ai profité de ces 20 minutes pour aller chaque fois, parce que c'est croisé, pour aller voir cette fille. Et juste après, il y avait un monologue de Smoktunovsky. Et donc, à cause de ça, j'ai vu plusieurs fois, peut-être 20e fois, cette scène et après le monologue Smoktunovsky.
Tu aimais beaucoup cette fille.
Elle était très belle. Oui. Et donc, mais en plus, j'ai rien à faire, c'est 20 minutes. Et une seule fois, je suis venu, j'écoute une fois de plus le monologue de Smoktunovsky. Il dit, vous voyez ce point dans l'espace, il avait des longs doigts. Il en avait avec son index, ce point dans l'espace. Et là, cette fois-là, il a fait d'une telle façon que moi, je me suis arrêté. Toute la salle était une silence incroyable. Bien qu'il a dit juste ça, il a montré avec son doigt cet point dans l'espace. Il a dit avec sa autre main, il y a une autre pointe dans l'espace. Et si il y a un lien entre cette pointe. Et après, il y avait un très long monologue, mais ça, il n'y avait aucune importance de ce qu'il dit. Mais la salle est disparue. On s'est retrouvé dans un. Vraiment dans un espace, et toutes ces paroles, tous ces mots qu'il a dit. Et là, j'ai compris que c'est ça la génie d'un acteur. Donc, ça se passait
ça
pas.
Ça fait partie d'un des trois moments dont tu as parlé?
Non, parce que là-bas, j'ai parlé de trois spectacles. Maman. Et c'est un moment. Mais tu as tout à fait raison, c'est un de ces moments. On peut dire le quatrième, mais c'est le moment d'un monologue d'un acteur génie. Et donc, si je n'étais pas ce soir-là, je n'ai jamais vu pourquoi on l'appelle un génie. Parce que c'est ça. Tu viens de lire cet extrait de Grotowski. Ça ne se passe pas chaque soir, même avec un génie. Mais quand ça se passe, ça donne une dimension incroyable et tu aperçois les choses qui sont les plus fortes dans la vie. Parce que grâce à ces acteurs, grâce à son jeu d'acteur ce soir, il te redonne cette conscience incroyable de la beauté de la vie, avec tout, ses souffrances, sa joie, ses heureux, tout en même temps.
Je pensais pour le point final de ce premier entretien, à la lecture d'un poète, d'un poème que tu aimes, en russe. Tu as choisi Joseph Brodsky.
Oui.
Mais d'abord, j'aimerais lire le dialogue véridique entre le poète, Joseph Brodsky, qui a été inculpé en justice faute d'avoir un travail stable. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote.
Oui.
Dialogue véridique entre le juge, Madame Savaleva, et Brodsky. Quelle est votre profession ? Je suis poète, je suppose. Pas de ce « je suppose » ici. Tiens-toi droit. Ne t'appuie pas contre le mur. Regarde le tribunal. As-tu une profession stable ? Je croyais que c'était là une profession stable. Mais quelle est ta spécialité d'une manière générale ? Je suis poète, traducteur, poète. Et qui t'a reconnu comme poète ? Qui t'a fait rentrer dans les rangs des poètes ? Personne. Et qui m'a fait rentrer dans les rangs de l'espèce humaine ? As-tu étudié pour l'être ? Quoi ? Pour être poète ? N'as-tu pas cherché à poursuivre tes études au lycée, où l'on prépare, où l'on apprend ? Je n'ai pas cru que c'était matière d'enseignement. Comment alors ? Je crois que ça vient de Dieu. Donc le poème, tu l'as en russe ?
C'est très connu, ça. Ce dialogue. Anna Akhmatova a dit « Ah, quelle biographie il fait pour ce garçon !» quand il l'a jugé pour, pendant ce processus. Mm.
Tu le lis ou tu le dis ?
Je connais
tu
par
connais?
Cœur. Ouais.
Tu veux ?
Oui, bien sûr. Рождественская звезда. Иосиф Бродский. В холодную пору, в местности привычной скорей к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
Merci, Alexei.
Don't.